Ce soir, toutes les questions que vous vous posez à propos du Tour de France, 105e édition, arrivée dimanche sur les Champs-Élysées. Un tour au déroulement un peu particulier cette année. Pas de suspense, une forme d'ennui, l'équipe Sky écrase la course. Moins de spectacles, moins de spectateurs, moins de téléspectateurs aussi devant leurs écrans. On voudrait des rebondissements, or la course semble écrite à l'avance. Et puis, parfois sur le bord des routes, des coureurs insultés, des vainqueurs hués sur le podium. Pour certains, la crédibilité de l'épreuve est en jeu, avec toujours ces fans de cyclisme traumatisés par les affaires de dopage. Le soupçon est toujours là. Je rappelle, Christopher Froome, star de l'équipe Sky, déjà 4 fois vainqueur du Tour, a été contrôlé positif en septembre 2017, puis blanchi par l'Union Cycliste Internationale 5 jours avant le départ de la Grande Boucle. Conséquence, un climat de défiance. Mais d'autres spécialistes de l'épreuve disent « On ne peut pas reprocher à l'équipe Sky d'être la plus forte. Son tort serait de gagner. Ça ne tient pas. C'est pas la faute du Tour s'il n'y a plus de Français capables de remporter l'épreuve reine du vélo. » Ce qui, évidemment, relancerait l'intérêt. Vos questions sur tout cela, vos réactions, c'est maintenant 01 45 24 7000 et puis bien sûr le site de l'émission franceinter.fr. Et pour vous répondre, à Pau, arrivé aujourd'hui de la 18e étape, des invités, Marc Madiot. Bonsoir Marc Madiot.
Bonsoir.
Vous êtes manager de l'équipe française Groupama FDJ, un homme heureux hein, ce soir puisque votre équipe a remporté l'étape avec Arnaud Démare. Vous êtes aussi président de la Ligue nationale de cyclisme. Thomas Beuclair, bonsoir Thomas Beuclair.
Bonsoir tout le monde.
Ancien coureur cycliste professionnel, désormais consultant pour Radio France. À vos côtés, Jean-François Bernard. Bienvenue Jean-François Bernard.
Bonsoir.
Ancien coureur cycliste professionnel et lui aussi consultant pour Radio France. Enfin, Fabrice Rigobert qui nous fait vivre ce Tour de France sur France Inter. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir Pierre.
Et merci à Jean-Marie Porcher avec ses moyens techniques qui nous permet d'établir cette liaison et de réaliser cette émission en direct de Pau.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
Fabien est à Rouen. Bonsoir Fabien.
Bonsoir.
Vous aimez le Tour de France ?
Oui, un peu. De temps en temps, en fait.
Oui. Voilà. Alors, expliquez-nous votre question, alors.
Voilà, déjà, tout d'abord, je tiendrai à dire merci à vos standardistes et techniciens, parce qu'ils font un super boulot, donc voilà.
Bien sûr, sans eux, pas d'émission.
C'est ça. Et ensuite, voilà ma question. J'ai jamais fait de vélo en club, mais selon moi, le vélo, c'est un sport individuel, et il se court dans les grands... dans les grands tours, le Tour de France, la Vuelta et autres, ils se courent en équipe. Et c'est ce concept d'équipe en vélo que j'ai du mal à comprendre. Et j'ai l'impression que c'est ça qui casse un peu le charme du vélo. Voilà.
On va vous répondre, Fabien. Fabrice Rigobert, j'ai besoin de vous ce soir parce que vous êtes à Pau. Moi, je suis à Paris, je ne vois pas vos invités. S'ils veulent prendre la parole, c'est vous qui décidez, c'est vous qui distribuez la parole. D'accord, Fabrice ?
Aucun problème, Pierre.
Alors, qui veut répondre à Fabien ?
Marc Madiot, semble volontaire, président de la Ligue nationale de cyclisme.
Et puis manager d'équipe, manager le travail d'équipe,
voilà. C'est ce que c'est. Marc Madiot, alors ce travail d'équipe.
On en a pour un petit moment là, si on veut s'attaquer au sujet. Le vélo, c'est très simple.
Prends l'exemple d'aujourd'hui, Marc, le travail d'équipe.
C'est un sport individuel qui se pratique en équipe. Dans un peloton, vous avez des équipes et ça fonctionne comme ça aujourd'hui où chacun tient un rôle. C'est un petit peu comme une équipe de football. Il y a des défenseurs, il y a des milieux de terrain, il y a des attaquants. En vélo, on a des gens pour rouler dans la plaine, on a des gens pour faire les sprints et on a des gens pour faire les étapes de montagne qui ont des gabarits plus adaptés. Donc au sein d'une équipe, on essaie d'harmoniser le bon fonctionnement des 8 coureurs pour construire quelque chose ensemble et obtenir un résultat qui sera individuel au moment de passer la ligne d'arrivée, mais qui aura été construit de manière collective.
Si on veut résumer par rapport à aujourd'hui, avec la 3e victoire française sur ce Tour de France, avec la belle victoire d'Arnaud Démare, eh ben, s'il avait été seul dans son équipe, il n'aurait pas pu gagner. Tout simplement, c'est un travail d'équipe. Mais c'est vrai que, autant maintenant, je dis que le vélo, c'est un sport d'équipe. Il faut arrêter de dire que le vélo, c'est un sport individuel. Le vélo est un sport d'équipe.
Pierre, le vélo peut être individuel sur piste lorsqu'on a des disciplines comme par exemple le kilomètre ou la vitesse, bien où sûr. Là on est contre le temps notamment. Je voulais juste, si vous me permettez, apporter une précision. Vous avez évoqué tout à l'heure, Pierre, un contrôle positif pour Christopher Froome. Il faut bien faire la nuance parce que on joue vraiment sur les mots dans cette histoire-là. C'était un contrôle anormal à cette substance, le salbutamol, qui est de la ventoline. Et quand on a un contrôle anormal, on n'est pas automatiquement suspendu parce que le coureur, il y a des circonstances dans lesquelles il se peut eh bien qu'il n'y ait pas de triche, et visiblement c'est ce qui s'est passé pour Christopher Froome. C'est pour ça qu'il faut faire attention entre contrôle anormal et positif. Là on n'était pas sur un contrôle positif mais anormal, ce qui a permis ensuite eh bien au coureur de prouver sa bonne foi.
Mais Fabrice, vous êtes bien conscient que malgré cela, les spectateurs qui manifestent souvent leur hostilité à l'égard de Christopher Froome, bah, ils ne sont pas convaincus, ils ont toujours un soupçon, ils se disent « il y a de la triche ».
Bien sûr, c'est pour ça que nous devons, nous, de présenter les choses le mieux possible, de présenter tout simplement la vérité. Et c'est vrai que ce sont des nuances qui sont assez difficiles à saisir, d'où l'importance pour l'Agence mondiale antidopage, dans les mois, dans les années qui viennent, peut-être de prendre des mesures supplémentaires pour faire en sorte de clarifier tout cela, pour que le grand public tout simplement s'y retrouve.
Alors, on a pas mal de questions à propos du dopage, je vous les soumettrai dans quelques minutes, mais d'abord, ce courriel de Joseph qui nous a écrit « Avant, bah, j'appréciais cette compétition, le Tour de France. Maintenant, je ne la regarde plus que pour les paysages et les monuments. Avec l'équipe Sky, il n'y a plus de suspense. » Et puis André qui nous demande « Pourquoi cette équipe Sky, elle est si forte ?» Qui veut répondre ?
Jean-François Bernard ?
Pourquoi elle est si forte ? Parce qu'ils ont déjà au départ un très gros budget. Donc après, à partir de ce moment-là, vous pouvez déjà vous offrir des coureurs que toutes les équipes ne peuvent pas s'offrir. Quand on regarde l'équipe Sky, elle a des coureurs qui grimpent, des coureurs qui roulent, des coureurs qui sont autour de leur leader qui était au départ Christopher Froome. Maintenant, même si c'est Geraint Thomas qui a le maillot, qui était quelque part le deuxième coureur protégé dans cette équipe. Donc tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Il faut savoir que les budgets, il y a de grosses différences. À l'heure actuelle, pour l'instant, l'équipe qui a les meilleurs coureurs pour aller chercher la victoire dans le Tour de France, c'est l'équipe Sky. Donc si cette personne-là s'ennuie sur le Tour, quelque part on n'y peut rien. Le Tour, je pense qu'il y a quand même quelque part du suspense. Hier on a vu la victoire de Quintana. Je veux dire, l'équipe Movistar avait préparé cette victoire d'étape, si ça ne reste qu'une victoire d'étape, mais c'est une victoire d'étape. Vous savez, quand on gagne une étape dans le Tour de France, on se rappelle que de ça. Ouais. Aujourd'hui, Arnaud Démare a gagné, il n'y avait pas tous les sprinteurs, on se rappellera. Qui n'est pas tous les sprinteurs, on ne se rappellera pas. On se rappellera qu'Arnaud Démare a gagné à Pau. Et puis voilà, maintenant, Sky, oui, c'est vrai, domine le Tour de France depuis plusieurs années, parce qu'ils ont aussi un leader qui est capable d'aller chercher cette victoire sur 3 semaines, et surtout parce qu'il est super bien entouré. On ne gagne pas le Tour de France sans une équipe. On va revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut une équipe pour aller chercher la victoire finale aussi dans le Tour de France.
Je rappelle que Sky va remporter, si Geraint Thomas garde son maillot jaune, Sky va remporter son 6e Tour de France en 7 ans dimanche. Des questions, Guillaume à Limoges. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
C'est à vous. Nos invités vous écoutent à Pau.
Bonsoir à tous. Et donc j'ai une question pour Marc Madio. Déjà, je voudrais féliciter pour la victoire d'Arnaud Démare aujourd'hui. Et ensuite, je voulais lui demander, parce qu'effectivement, il a été évoqué qu'il n'y avait plus beaucoup de sprinteurs maintenant, et je voulais savoir comment Arnaud Démare avait réussi hier à rentrer dans les délais en ne perdant que 9 minutes sur les favoris qui se sont fait la guerre dans le dernier col.
Marc Madiot.
Bon, alors déjà, il s'est accroché, il s'est fait violence, et il a pu rentrer dans les délais. L'histoire des 9 minutes, elle n'est pas réelle, dans la mesure où les GPS ne sont pas forcément tous en adéquation sur le parcours. Il a perdu du temps dans chaque col, il a fait les descentes à bloc, mais il était à son rythme, à lui. Et il a perdu à peu près une dizaine de minutes par ascension, ce qui est dans la logique des choses, de ce que l'on perd quand on est un sprinter derrière les meilleurs grimpeurs. Après, il y a aussi un autre phénomène qui intervient, c'est que vous avez un décalage de temps qui s'installe entre les premiers écarts qu'on donne entre les échappés
et Arnaud Démare qui est largement distancé, mais par rapport au peloton, il était beaucoup plus près puisqu'il y avait déjà un écart de 3 à 4 minutes sur le premier col entre les échappés et le peloton. Donc le différentiel que l'on retrouve dans le final est modifié par rapport au fait que le peloton, lui, a rattrapé les échappés. Donc,
une précision de Thomas Voeckler.
Moi, je voudrais apporter la précision suivante, que c'est pas parce qu'il y a des sprinteurs qui n'ont pas passé les Alpes que Arnaud Démare doit en pâtir un petit peu. Arnaud Démare a eu le mérite de se battre. Il a été lâché durant deux journées, le premier lâché, perdre 9 minutes sur le dernier col de 16 km que j'ai fait alors que je n'ai plus du tout la condition physique que j'avais il y a un an quand j'étais encore coureur. Je l'ai reconnu, ce col du Porté d'hier. Perdre 9 minutes quand on est un coureur de la classe d'Arnaud Démare, même si on n'a pas de capacité de grimpeur, sur un coureur comme Quintana, eh ben, il n'y a rien de choquant. Ça fait 35 secondes environ au kilomètre. Arnaud Démare a parfaitement géré son effort. J'ai connu le garçon dans le peloton, je le connais encore actuellement. Il faut arrêter avec cette polémique, même si je peux comprendre cet auditeur qui, avec les réseaux sociaux et tout le reste, c'est normal d'avoir le doute, mais à nous de défendre Arnaud Démare, et surtout qu'on ne pense pas qu'il ait gagné aujourd'hui parce qu'il a monté accroché à la portière de la voiture ou avec un bidon, parce que Arnaud Démare s'est battu comme un beau diable dans la montagne.
Voilà, Mario,
oui, je voudrais juste ajouter pour l'auditeur, Arnaud Démare était le dernier du peloton, et si ce monsieur a pour habitude de suivre une course cycliste, il sait que dans la voiture balai du Tour de France, il y a systématiquement un commissaire.
Des courriels. Patrick, il nous écrit « Je suis outré par le comportement des spectateurs sur le bord de la route qui mettent en danger les participants, les coureurs. Pourquoi personne ne fait rien pour les empêcher de courir, souvent totalement ivres, à côté des cyclistes ?» Et je rappelle que le maillot jaune, Geraint Thomas, s'est plaint aujourd'hui d'un incident provoqué hier par un spectateur près de l'arrivée de la 17e étape du Tour au col du Portet, où on voit un spectateur, on voit une photo diffusée sur les réseaux sociaux et on voit un spectateur qui porte un coup à Geraint Thomas. Il y a aussi cette agression il y a quelques jours au début du Tour de France qui visait Christopher Froome.
Jean-François Bernard.
Les réseaux sociaux, c'est le bon bout. On va revenir sur les incidents qui ont lieu dans l'Alpe d'Huez par exemple. Il faut savoir que les gens qui viennent sur l'Alpe d'Huez ne sont pas le public de tous les jours sur le Tour de France. L'Alpe d'Huez, c'est un endroit mythique. Qu'est-ce que l'on veut ? On veut passer à la télévision en même temps que les coureurs passent. C'est-à-dire qu'on va se déguiser, il y en a un qui se déguise en poule, l'autre se déguise en n'importe quoi. On met plein de trucs, ça boit. Le public de l'Alpe d'Huez où il y a eu des gros incidents, vous ne les retrouvez pas le lendemain. Ce sont des gens qui savent que c'est un endroit où il va se passer quelque chose, il y a beaucoup de monde, on court à côté des coureurs, on les pousse, c'est marrant, il y a le copain qui fait une photo et il envoie tout de suite ça ou sur Twitter ou sur Facebook. Et puis voilà, c'est parti comme ça. C'est ce que après des mesures, il y en a eu qui ont été prises. Il y a des barriérages à 4 km de l'arrivée. Il y a quand même un gros service de gendarmerie et de police sur le bord de la route. Il y a les gens de la sécurité du Tour qui étaient, par exemple, dans le virage des Hollandais. On n'avait jamais vu ça ces dernières années. Ces gens-là étaient plus sur la route qu'ils ne l'étaient cette année. Il y avait aussi moins de monde à ce moment-là. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses de faites. Maintenant, vous ne pourrez jamais empêcher ça. Il faut savoir que le sport, c'est un sport gratuit. On peut venir le voir gratuitement au bord de la route. On peut encore toucher, je veux dire, le sportif, c'est encore un sport, on peut toucher. Au football, vous le touchez pas, la tennis, vous le touchez pas, quand vous êtes sur un terrain de handball, dans un gymnase, vous le touchez pas, dans une salle de sport. Voilà, donc on a forcément plus de problèmes de toute façon avec le public.
Une dernière précision, Pierre, on a vu effectivement de mauvais gestes, des sifflets, des huées pour les coureurs de la Sky à cause de cette histoire dont on a parlé au début, le contrôle anormal de Christopher Froome. Il y a aussi d'autres coureurs qui subissent ces agressions. Romain Bardet, dans la montée de l'Alpe d'Huez, a été, pas bousculé, mais poussé, et parfois quand on pousse un coureur, c'est limite une agression physique, et ce n'est pas Thomas Voeckler qui est à côté de moi qui dira le contraire rapidement. Ouais,
il faut quand même préciser que si on veut trop barriérer, si on veut trop rentrer dans, on perd le charme du Tour de France. Le Tour de France, pourquoi les gens viennent en famille avec la table de camping, entre les petits-enfants, avec leurs grands-parents, pourquoi ils viennent? Parce que le spectacle est beau et qu'on peut approcher les coureurs, on voit la caravane, on voit les coureurs. Si vous mettez des gendarmes tous les 10 mètres ou alors des barrières sur le long du parcours, on perdra ce charme-là. Et pour revenir à l'incident d'hier de Geraint Thomas, l'erreur ne vient pas du spectateur, l'erreur vient de Geraint Thomas. Un favori n'a pas à raser les spectateurs dans les derniers quelques centaines de mètres avant un col. Il doit rester, les barrières sont en place, il n'a pas à raser les barrières parce que là, c'est certes, c'était mal intentionné, mais on peut prendre une photo quelqu'un. Il n'a pas à raser les barrières, il doit être au milieu de la route pour se mettre en sécurité par rapport au public. C'est pas la faute du spectateur qui pourtant a commis une erreur hier.
Voilà, Thomas Voeckler, consultant pour Radio France, ancien maillot jaune, quatrième du Tour de France en 2011. Fabrice Rigobert, on parle de ces agressions, mais il faut quand même rappeler que les agressions visant des coureurs, c'est pas nouveau. Ça a marqué l'histoire du Tour de France.
Oui, on se souvient de l'agression d'Eddy Merckx qui avait reçu un coup de poing. Ouais. Et il y a de nombreux coureurs, de nombreux coureurs qui ont dominé l'histoire du cyclisme, qui se sont attirés cette défiance du public. On a l'impression que le public français, par moment, n'aime pas ceux qui gagnent trop. Et à la fin, on arrive à ces scènes de violence. Et ça, c'est sans doute un petit peu dommage. Donc ça a existé effectivement dans le passé, et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec l'hypermédiatisation de la course, on voit de plus en plus de faits comme ceci.
Au Standard, à Pau, où se trouve ce soir le Tour de France, Frédéric. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir à tous. J'aimerais moi parler de dopage avec un petit peu de colère, tout simplement parce que les coureurs en sont les premières victimes, hein, alors que ce sont des sportifs qui font un sport d'une pénibilité extraordinaire. Alors j'en parle avec colère parce que Pierre Veil parlait tout à l'heure de soupçons de dopage. Je rappelle qu'une commission parlementaire britannique a quand même montré que l'équipe Sky avait injecté des corticoïdes à ses coureurs pour améliorer leur rapport poids-puissance en dehors des compétitions. Et je n'oublie pas que Bernard Thévenet a failli mourir à cause des corticoïdes qu'on lui avait injectés. Pareil pour Yves Rézard, pareil pour Doc Guillaume, etc. Oui. Donc moi, je voudrais poser quelques questions, disons, aux coureurs cyclistes que j'admire, hein, qui sont sur le plateau. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en fin de compte, d'abord faire des tests plus sérieux, parce qu'on me dit que Fromm est asthmatique. Moi, j'aimerais avoir une expertise faite par un expert indépendant pneumologue avec des épreuves d'effort. Si on fait des tests d'allergie à 100 personnes, on va trouver 90 allergiques. Quintana, qui est un coureur magnifique, je crois savoir, qu'on m'arrête si je me trompe, qu'il est sous cortisone parce qu'il est allergique toute l'année. Et il se met en danger. Alors oui. J'aimerais savoir s'il ne faudrait pas mieux stopper toutes les autorisations d'utilisation thérapeutique, les AUT, et dire que, ma foi, si un coureur est malade, il ne court pas.
Très bien, Frédéric. On va vous répondre parce que la ligne soudain n'est pas très très bonne. Fabrice Rigobert, qui veut répondre à ces remarques?
Avant de passer la parole à Marc Madiot, président de la Ligue et patron d'équipe, je tiens à faire une précision, c'est que il ne faut pas stigmatiser en permanence le cyclisme. Certains, si on prend le football par exemple, les joueurs jouent sous infiltration. Qu'est-ce que c'est qu'une infiltration? Ce sont des corticoïdes qu'on injecte dans les articulations pour faire oublier la douleur. Quand vous jouez sous infiltration dans le football, vous êtes un héros. Quand vous le faites dans le cyclisme, c'est pas un héros que vous êtes. Et d'ailleurs, de toute façon, vous ne pouvez même pas le faire puisque les infiltrations sont interdites. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être soigné avec des produits qu'on va vous injecter avec des seringues dans le cyclisme. La politique antidopage dans le cyclisme est beaucoup plus ferme et rigoureuse que dans tous les autres sports. Ça, c'est une vérité. Marc Madiot fait partie du mouvement pour un cyclisme crédible, le MPCC, qui a été créé en 2007, qui d'ailleurs interdit à toutes les équipes adhérentes d'utiliser des corticoïdes marques.
Oui, alors je voudrais d'abord préciser une chose, les contrôles sont fiables et de qualité. Il ne faut pas laisser supposer que les contrôles sont bidons ou mal effectués. Ça, c'est la première chose. La deuxième, toute personne, qu'elle soit cycliste ou autre, a le droit de se soigner. Quand on a un problème de santé, il est tout à fait normal d'avoir aux soins les meilleurs pouvant permettre la guérison. Après, où le sujet devient plus délicat, c'est à quel moment on doit arrêter les soins pour permettre à quelqu'un de reprendre la compétition, notamment en cyclisme. Je ne vais pas aller sur le football, vous venez de l'évoquer. J'ai envie de dire, chaque sport a ses propres difficultés et ses propres démons. Nous, le vélo, on a eu des années difficiles. L'objectif, c'est de rendre le plus crédible possible ce sport. Le MPCC notamment essaie d'y contribuer en
MPCC, pardon, il faut traduire
pour
les
non spécialistes.
Mouvement pour un cyclisme crédible. L'idée, elle est très simple, c'est que quand on est malade ou blessé, on se soigne et on n'est pas en compétition si on a besoin de traitements, notamment à base de corticoïdes. C'est aussi simple et aussi bête que cela. Après, tout le monde n'est pas forcément sur cette même longueur d'onde. Nous, on essaie de motiver, de stimuler toutes les équipes pour qu'elles viennent sur cette philosophie. Ça contribuerait naturellement à donner un peu plus de crédibilité,
mais ça garantirait
peut-être un peu plus d'équité. Mais c'est tout, ça s'arrête
mais sur
là.
Sur le site de l'émission, les courriels arrivent. On nous demande, êtes-vous convaincu vraiment qu'il n'y a plus aucun dopage, même avec des microdoses? Le public ne le croit pas. C'est pour ça qu'il siffle certains coureurs.
Moi, si je peux me permettre,
Thomas Beuclerc.
Le jour où on va, où quelqu'un clamera haut et fort qu'il n'y aura plus aucun problème dans le vélo, c'est là où on fera fausse route. Il faut toujours être prudent. Si jamais, moi, je pars du principe qu'on trouve là où on cherche. Alors, c'est vrai que le vélo a eu des années extrêmement compliquées. Moi, j'ai commencé ma carrière en 2001, j'ai arrêté en 2017. Voilà, j'ai connu des débuts d'étape où on roulait à 70 à l'heure et puis où le seul espoir pour certains coureurs, je parle notamment d'un coureur comme Sandy Cazard que Marc Madiot a eu pendant des années et où comme moi, par exemple, et beaucoup d'autres qui pratiquaient leur métier honnêtement, le seul espoir, c'était d'animer un petit peu la course parce qu'on savait pertinemment qu'on n'avait pas les moyens de peser sur le final. Cette époque est révolue. Lorsqu'on épingle des tricheurs, ça ne veut pas dire que le sport est gangrené, ça veut dire que les contrôles sont efficaces. C'est pas parce que vous avez aucun contrôle positif sur une Coupe du Monde ou alors sur un grand chelem de tennis qu'il n'y a pas une brebis galeuse qui traîne. Alors si quelqu'un vous dit que dans le vélo tout est rose et qu'il n'y en a plus aucun qui triche, il faudra peut-être faire attention à son discours. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est que depuis quelques années, notamment depuis 2009 et la localisation des athlètes, où un coureur doit être tous les jours à un endroit précis pour être à même d'être contrôlé, eh ben, les instances vont dans le bon sens et le nécessaire a été fait. Je vous dis pas que tout est rose, mais c'est sans commune mesure avec ce qui a pu être il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années le peloton cycliste professionnel.
Et comment se passe au quotidien, là, sur le Tour actuellement, les contrôles antidopage, Fabrice Rigobert? La question revient souvent sur le site.
Il y en a une quinzaine de pratiqués chaque jour, oui. Vainqueurs d'étapes notamment, les leaders des différents classements. Ensuite, l'Agence française de lutte contre le dopage qui travaille avec la Fondation antidopage de l'Union cycliste internationale choisit des coureurs, cible ces contrôles sur des informations qu'elle récolte, sur des soupçons qu'il pourrait éventuellement y avoir. Et au début de ce Tour de France, tous les coureurs ont été testés, l'intégralité du peloton, dans le cadre de ce que l'on appelle le passeport biologique qui permet d'établir le profil de tous les coureurs qui sont donc contrôlés à longueur d'année. Et il n'est pas rare de voir des contrôles dans les hôtels à 6h du matin. Julien Bernard, fils de Jean-François, qui est donc ici notre consultant, a été réveillé il y a 2-3 jours à 6h du matin au départ d'une étape.
Au standard, Daniel à Toulouse. Bonsoir Daniel, merci d'être avec nous.
Bonsoir Pierre Veil, bonsoir messieurs. Moi j'ai juste une réaction en fait, je fais partie des téléspectateurs désabusés. Je suis le Tour de France depuis pas mal d'années à la télévision, où je vais de temps en temps évidemment quand il passe dans le secteur, comme c'était le cas ces derniers jours, je vais sur le Tour. Mais là depuis le début du Tour, je trouve que le parcours est pas passionnant et puis il se passe rien quoi. Donc la télévision est allumée mais je fais autre chose. Avant j'étais vraiment devant le poste, maintenant je fais beaucoup de choses, je regarde éventuellement l'arrivée mais... On s'ennuie. Cette année, on s'ennuie.
Mais qu'est-ce qui vous ennuie plus particulièrement?
C'est-à-dire que la course, oui. Il se passe rien. Il se passe rien. Il n'y a pas de suspense. On sait qui va arriver de toute façon à la fin. Donc cette année, je trouve que c'est vraiment y a rien. Quoi.
Et la performance physique que vous voyez en direct à la télévision, oui. Que vous entendez à la radio, c'est quand même impressionnant, je veux dire, ce qu'a fait Arnaud Démare aujourd'hui.
Oui, j'ai regardé Arnaud Démare, j'ai regardé juste l'arrivée. Alors, ce que je regarde beaucoup maintenant, finalement, c'est les commentaires de Franck Ferrand, qui commente toujours les régions et le patrimoine d'une façon passionnante. C'est ça plus aujourd'hui qui m'intéresse pratiquement que la course en elle-même. Ah. Et on le voit sur l'écran, qu'il y a moins de monde au bord des routes. Hein. On le voit depuis pratiquement le début. Alors, je ne sais pas si c'est un effet Coupe du Monde, mais on voit qu'il y a beaucoup moins de monde sur la route.
Alors, réaction de nos invités autour de Fabrice Rigobert.
Jean-François Bernard.
Oui, alors en fait, qu'est-ce qui vous plaît pas dans le parcours? Je vais vous poser la question. Je pense que le parcours, les organisateurs essayent de faire un parcours pour qu'il y ait de l'animation. Après, à partir du moment où vous avez une équipe qui domine, c'est différent. Et vous savez, le parcours, il est fait d'une telle façon. Après, les coureurs décident aussi de savoir s'ils vont vraiment se servir de ce parcours-là. Au départ, l'organisateur, lui, se dit, ça va être intéressant, on va mettre ça là, on va mettre cette étape-là comme ça, on va aller un coup en montagne, aujourd'hui on revient plus dans la plaine, demain on va retourner dans la montagne. Après, les coureurs, c'est eux qui décident de faire la course ou pas. Je crois qu'on a eu quand même des satisfactions, il y a quand même eu des moments où c'est vrai qu'on est embêté avec cette équipe Sky qui domine, c'est difficile, mais vous savez, quand vous êtes dans un col, des stratégies, les équipes, les adversaires de Froome, ils en ont des stratégies, il y en a toujours dans les équipes, bien entendu, qui veulent être sur le podium ou remporter le Tour de France. Après, quand vous voyez dans l'école, quand ça roule à 20-25 km/h, que vous avez décidé d'attaquer le matin, bah, c'est vrai, regardez Romain Bardet à l'Alpe d'Huez, il a attaqué, il a pris 150 mètres, et puis après, il n'a pu creuser les écarts. C'est pas qu'il n'essaye pas. Alors, c'est pas passionnant. Je pense qu'on a eu des moments sur le Tour qui sont intéressants. Si vous voulez qu'on revienne dans les Tours de France où ça a explosé de partout, je pense que on n'est pas là pour ça. Et voilà, on a un coureur qui domine, une équipe qui domine à l'heure actuelle. C'est
oui,
peut-être
enfin,
pour ça.
Vous reconnaissez que vous vous ennuyez un petit peu. Ça peut, à la longue, si ça se perpétue, menacer ce Tour de France.
Est-ce que c'est le Tour de l'ennui, Marc Madiot?
Bah, c'est pas un tour qui restera peut-être dans les annales, mais c'est un tour qui a son caractère, qui aura son vainqueur. Et vous savez, on vient d'assister à la Coupe du Monde de football. La France est championne du monde. Mais si ma mémoire est bonne et ne me manque pas, il y a quand même eu des matchs où on a très largement critiqué la qualité du jeu produit par les équipes,
oui.
Que ce soit l'équipe de France ou d'autres.
Si je puis me permettre, la comparaison avec la Coupe du Monde, ça ne tient pas parce qu'à la Coupe du Monde, il y avait un suspense. On ne savait pas, on ne connaissait pas. Là, on sait très bien que, normalement, sauf changement très, très important, Geraint Thomas sera le vainqueur du Tour. Dimanche.
Alors, Thomas sera peut-être le vainqueur du Tour, mais si vous avez un brin l'œil aiguisé par le sport, vous pouvez vous apercevoir que sur chaque étape, il y a des choses intéressantes à regarder, et il y a du suspense qui se déroule devant vos yeux. Après, il faut peut-être parfois aiguiser l'œil un peu pour capter ce qui s'y passe. Mais si vous regardez par exemple l'étape d'aujourd'hui, alors je vais prêcher pour ma paroisse, mais quand on regarde le sprint, la gestion de l'étape, et qu'on regarde la façon dont les équipes se positionnent pour amener leurs sprinteurs dans les meilleures dispositions, là aussi il y a du spectacle. C'est un petit peu comme en football, on n'en voit pas forcément tous la même qualité au niveau du geste du footballeur, mais si on ouvre un peu l'œil et qu'on s'y intéresse d'un peu plus près, on voit aussi de belles choses.
Et on peut s'intéresser, Pierre, avant de passer rapidement la parole à Thomas Voeckler, aux Français, si Romain Bardet ne réussit pas, regardez Pierre Latour, regardez Julien Alaphilippe, Arnaud Démare aujourd'hui, Thomas, il y a des choses aussi à aller chercher.
Je pense que je peux comprendre la frustration de cet auditeur et donc téléspectateur également l'après-midi. Ce qui manque au cyclisme français, peut-être, c'est ce qu'on espérait tous au départ du Tour, c'est que Romain Bardet joue la victoire dans ce Tour et son équipe n'a pas été épargnée par la malchance. Si on avait un Romain Bardet en embuscade à 30 secondes en général avec une belle étape pyrénéenne demain, je suis prêt à prendre les paris avec cet auditeur qu'il serait resté fixé derrière son poste de télévision
évidemment,
ou de radio pour
évidemment,
toute l'après-midi.
Évidemment.
Et après, le vélo, c'est un sport, voilà, il y a des imprévus. L'équipage des deux heures la mondiale a perdu 3 coureurs quasiment dans la première semaine. Romain Bardet, malgré tous les sacrifices qu'il a fait, n'est peut-être pas dans la forme de sa vie comme ces 2-3 dernières années. Et c'est le sport qui veut ça. Il faut accepter la défaite aussi. Et croisons les doigts pour que l'année prochaine, on ait un Français qui pourquoi pas Thibaut Pinot d'ailleurs, Marc Madiot, qui délaisse un petit peu l'Italie et qui nous fasse le plaisir de venir sur le Tour de France.
Voilà.
Et pourquoi pas une alliance Romain Bardet-Thibaut Pinot que ce soit un vainqueur français.
Rendez-vous
dans un an.
Il y aurait de l'émotion, du suspense.
Pour terminer, Pierre, notez que
Fabrice.
Nous avons eu tout de même beaucoup de Français sur le podium du Tour de France ces dernières années. avec Thibaut Pinot, avec Romain Bardet, qui a terminé deux fois. Jean-Christophe Perrault, Thibaut Pinot et ensuite Romain Bardet, deux années de suite. Donc oui, il n'y en a pas cette année, mais voilà.
Jean-François Bernard, il y a quelques années.
Non, mais la marche est haute, hein, entre la deuxième place et la première. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de coureurs qui ont fait deuxième, troisième du tour, qui après n'ont pas
Je voudrais rappeler juste un contexte économique. Je parle sous le contrôle de Marc Madio, parce que moi, je ne suis pas manager d'équipe. Dans le football depuis quand, si je ne me trompe pas, c'est l'Olympique de Marseille en 93 qui a gagné la dernière Ligue des Champions.
Exactement.
Est-ce que ça ne serait pas les raisons financières qu'on invoque dans le football, comme quoi les clubs de foot ne sont pas traités à armes égales selon les pays au niveau des raisons fiscales? Demandez à Marc Madio qui a un budget à gérer. Est-ce que l'équipe Sky, par exemple, même s'ils ont plus de moyens, est ponctionnée de la même manière au niveau fiscal? Et après, est-ce que le manager dispose du même budget? C'est un autre problème, mais c'est une explication aussi. À un moment, l'argent, c'est souvent le nerf de la guerre.
Un mot de Marc Madio, peut-être, en tant que président de la Ligue.
Sur ce qui vient d'être évoqué, les problèmes de budget des équipes. En France, on a la meilleure couverture sociale au monde, mais elle a aussi un coût. Et quand on est face à la concurrence internationale, où les gens sont des travailleurs indépendants et n'ont pas forcément la même couverture sociale que chez nous, on est devant un déficit de concurrence pour le sport français. Mais c'est la vie qui est ainsi. On va pas regretter ce qui se passe.
Non, mais c'est bon de le rappeler.
Mais c'est pas inutile de le redire.
Au standard, Jonathan à Montpellier. Bienvenue, Jonathan, sur l'antenne en direct.
Oui, bonsoir. Merci à toute l'équipe. Un salut particulier à Thomas Vauclair, que j'ai admiré ado et plus jeune. Ma question porte en fait sur les coureurs qui jouent le général. J'ai l'impression quand même qu'on voit un certain phénomène d'attentisme dans le top 10 depuis quelques années. Alors c'est vrai que la Sky est très très forte, mais on voit quand même pas mal de coureurs qui donnent l'impression de protéger parfois une troisième, une quatrième, une cinquième place, peut-être plus. Alors que, en tant que spectateur, on retient le vainqueur, on a l'impression que c'est le vainqueur qui compte. Alors ma question, en gros, c'est pourquoi ne pas tout risquer, quitte à tenter des trucs plus tôt, en première semaine, plutôt que d'attendre le dernier col de la dernière étape de la troisième semaine.
Très bien.
Voilà, quel est l'intérêt à ce comportement,
Jonathan, Thomas Vauclair, que vous admirez, va vous répondre.
Ouais, c'est une question pertinente. On voit que le monsieur suit le vélo de près. C'est vrai que il faudrait peut-être, là c'est un autre débat, on n'aura pas le temps d'y revenir ici, mais peut-être inciter à plus d'ouverture, à plus de prise de risque les coureurs classés plutôt qu'ils conservent une place, parce qu'il faut savoir qu'il y a également un classement mondial, qu'il y a des intérêts économiques qui sont en jeu, et quand vous avez deux coureurs dans les 10 premiers, eh ben c'est compliqué de prendre le risque de les faire d'attaquer et de les faire sortir potentiellement de ce top 10, parce que vous perdez des points, et si vous perdez des points, vous êtes moins bien classé et vous amenez moins de visibilité à votre sponsor. Donc c'est vrai que là je suis sur la même longueur d'onde que l'auditeur. Il faudrait trouver un moyen d'encourager les coureurs bien classés, les outsiders, à prendre le risque de perdre pour essayer de gagner. Maintenant c'est un autre débat et c'est très compliqué de trouver la solution.
Des courriels toujours à propos de la condition physique des coureurs, toujours ce soupçon concernant le dopage. Je vous lis ce qui arrive sur franceinter.fr. Jean-Christophe, il dit: Froome a eu un contrôle dit anormal pour un produit utilisé pour l'asthme. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de coureurs asthmatiques dans la Sky. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un avantage? Et puis cette autre remarque d'un auditeur: en quoi la diététique compte désormais beaucoup dans la stratégie d'un coureur pour être gagnant? Les champions aujourd'hui sont d'une maigreur inquiétante, effrayante. Est-ce une forme de dopage masqué? Fabrice Rigobert, c'est à vous de distribuer la parole.
Pour revenir sur le cas Christopher Froome et le nombre d'asthmatiques, le problème du cyclisme aussi, c'est que vous êtes en hyperventilation permanente lorsque vous faites des efforts sur des distances de 180 ou 200 km et vous êtes beaucoup plus allergique que les autres. Marc Madio.
Oui, et puis il y a aussi un problème de pollution par rapport à l'asthme d'effort qui est développé aussi à cause et en partie à cause de la pollution que l'on subit au quotidien. Donc quand vous êtes en plein effort et qu'il y a de la pollution en plus, ça n'arrange pas les problèmes d'asthme.
Alors après, sur la maigreur des coureurs, il y a eu des soupçons ces dernières années, effectivement, sur certains produits qui permettaient d'assécher le corps, mais on les recherche dans les contrôles antidopage. Il y a une chose qui est très très simple, ce n'est pas Thomas Vauclair qui me contredira, on va lui poser posé la question d'ailleurs. Quand on veut grimper un col, il vaut
mieux...
être
le moins lourd possible.
Voilà.
Mais il faut bien se mettre dans la tête que les coureurs ne font pas du vélo qu'au mois de juillet. Un coureur cycliste, quand vous voyez un Romain Bardet qui est enflé comme un cure-dent, il travaille du 1er janvier au 31 décembre.
Ouais.
Il se lève le matin, il pense à ce qu'il doit manger et il se couche le soir en se demandant s'il n'a pas trop mangé ce jour-là. Allez, je vous enlève 3 semaines dans l'année où il est en vacances, peut-être. Mais c'est pour vous donner un exemple. Et je parle de Romain Bardet parce qu'il est français, mais c'est pareil, il ne faut pas toujours tirer sur l'équipe Sky non plus. Christopher Froome, c'est la même chose. Les coureurs du Tour de France font des sacrifices au niveau de la diététique qui seraient hors de portée de n'importe quelle personne qui n'est pas sportif de haut niveau, un peu au même titre que les boxeurs par exemple ou les judokas quand ils essayent de rentrer dans leur catégorie de poids.
Je suis d'accord avec Thomas parce que nous, avec Marc Madiot, on a couru à la même époque et je pense qu'on aurait eu du mal, enfin on aurait peut-être été aussi bercé dans ce truc-là, donc on l'aurait fait peut-être la même chose, mais nous on n'avait pas l'habitude de faire ça. On voit que maintenant la diététique, c'est vraiment une chose très très importante. Hier on avait le cuisinier de Direct Energy qui était avec nous le matin, qui nous a expliqué tout ça en disant, c'est vrai, toi Jeff, tu mangeais des pâtes avant, maintenant ça fait plus partie du...
Pour donner un exemple, les cuisiniers, chaque équipe maintenant dispose d'un cuisinier. Si l'étape est plate et qu'il n'y a pas beaucoup de calories de dépensées, la portion sera adaptée. Si c'est une étape de montagne où il y a énormément de calories de dépensées, le docteur va peser le coureur avant la course, va peser le coureur après la course, va voir son état de déshydratation, il va dire au cuisinier d'adapter la portion. Oui. C'est hyper pointu, donc ce n'est pas choquant de voir des coureurs très maigres terminer un Tour
de
France.
Et il nous reste 4 minutes et un appel. Louise en Bretagne. Bonsoir Louise.
Bonsoir. Moi je suis une grande fan du Tour de France depuis plus de 25 ans, au point que j'ai fait mon mémoire de maîtrise de sociologie dessus, donc j'ai une grande amoureuse. Et je voulais savoir si les oreillettes ne jouaient pas un rôle contre-productif dans l'animation de la course et si on ne pouvait pas envisager de les supprimer ou en tout cas de les éteindre sur certaines étapes qui ne nécessitent pas une communication constante avec le directeur sportif.
Oui, réponse à faux.
Ça, c'est une question pour Marc Madiot.
Alors, on pourrait éventuellement supprimer les oreillettes, mais si on supprime les oreillettes, il faudrait également supprimer les Garmin, ou
les GPS,
capteurs de puissance, etc. etc. Mais c'est une idée qui mériterait d'être creusée.
Pour répondre à cette auditrice, moi je suis un fervent défenseur, je suis contre l'oreillette, tout simplement. Moi je serais pour une oreillette avec un canal unique pour avertir en cas de danger, en 5 langues, un canal charge à n'importe quel coureur de la prendre ou pas, mais que l'organisation, je pense qu'elle en a les moyens, fournisse à chaque coureur la possibilité d'avoir une oreillette avec un canal unique pour prévenir les dangers de la route en 5 langues, je crois qu'avec 5 langues vous faites le tour un peu du peloton, et d'interdire les consignes entre les directeurs sportifs, mais ça je sais que Marc n'est pas forcément d'accord avec moi, et encore moins pour répondre à l'auditrice, toutes les grosses équipes qui détiennent un petit peu les clés avec une sorte de lobbying et les plus gros budgets qui sont tous pour l'oreillette, parce que plus on a de moyens, plus on peut contrôler une course. Et Marc Madiot est de mon avis, donc ça tombe très bien.
On a eu de nombreux courriels en quoi les oreillettes peuvent fausser la course, et puis aussi cette question, Pierre. Quel est le rôle des capteurs de puissance?
Alors voilà, juste
mais on a plus de 2 minutes.
On pourrait enlever effectivement les capteurs de puissance. On a l'impression que les coureurs regardent un écran et font des efforts en fonction du nombre de watts développés. Marc Madiot.
Ils suivent leurs résultats qui apparaissent sur le capteur de puissance et ils se règlent en fonction du capteur de puissance. Ils sont plus dans la sensation, ils sont dans l'observation de résultats qui leur sont transférés en simultané sur le Garmin. Donc à partir de là...
Très rapidement, c'est vrai que le capteur de puissance est indispensable à l'entraînement d'un coureur et à sa progression. Je pense que la meilleure mesure, encore plus que l'oreillette, ça serait de l'interdire, de l'avoir en course pour pouvoir analyser les données après, mais de ne pas l'avoir de visu sur le guidon.
Pour renoncer à l'intérêt des courses.
Voilà, dernier appel, Pierre dans l'Ariège, et il nous reste 1 minute 30, Pierre, donc soyez bref, pardonnez-moi.
Ouais, d'accord.
Allez-y, Pierre.
Bon, écoutez, moi, il y a une chose que je regrette dans le passé, ces équipes internationales qui ont donné un engouement à cette course, certains, ces équipes fédérales également françaises, et puis maintenant, on sent que tout est écrasé par le pognon. On entend tout le temps ces histoires de dopage, les gens en ont marre. Voilà.
Et vous en avez marre.
Un point là-dessus.
Ah bon, voilà. Vous en avez marre. qui veut réagir à cet auditeur désabusé.
Donc en fait, il faut faire une équipe avec Bardet, avec Pinot, avec Barguil, avec Alaphilippe, une équipe de France, quoi.
Jeff, parce qu'il n'y a pas que les Français. Attention, ne disons pas de bêtises, il y a énormément de coureurs et la quasi-totalité des coureurs qui pratiquent leur métier honnêtement, mais c'est vrai qu'on peut avoir plus de suspense sur un Tour de France. Ça sera le cas l'année prochaine.
Merci à nos invités, Apo, Marc Madiot, Thomas Voeckler, Jean-François Bernard et Fabrice Rigobert. Et merci à Jean-Marie Porcher pour les moyens techniques. Et demain, vous nous ferez vivre l'étape avec les derniers cols des Pyrénées. Il y aura peut-être du spectacle. Aspin, Tourmalet et Aubisque, Fabrice Rigobert. Il est déjà parti. Oui. Et à demain sur l'antenne.